capte une multitude de fréquences. Pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuner.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Jérémy, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principatif, à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principatif, le mix des cultures.
International 6h ici à Paris, 2h de moins en temps universel. L'heure d'un nouveau journal et c'est avec vous Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Nemo en piste, bonjour à tous. Dans ce journal, le Liban a besoin $1 milliard pour faire face à la crise humanitaire déclenchée par la guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Mais le gouvernement peine à rassembler la somme alors que les raids israéliens continuent sur le sud du Liban en dépit de la trêve entrée en vigueur il y a maintenant 2 semaines. Le roi Charles III, le roi d'Angleterre, poursuit sa visite d'État aux États-Unis. Il s'exprimait il y a quelques heures devant le Congrès, discours où il a défendu l'OTAN et appelé Washington à soutenir les Ukrainiens. Dans cette édition également, la situation au Mali après 3 jours de silence, après les attaques coordonnées des djihadistes du JNIM et du Front de Libération de l'Azawad. Le chef des militaires au pouvoir à Bamako, Assimi Goïta, s'est exprimé hier appelant à l'unité alors que les Bamakois s'inquiètent, vous allez l'entendre, du blocus annoncé par le JNIM à Bamako. On parlera également de la fin du sommet de Santa Marta en Colombie, sommet sur la sortie des énergies fossiles. Et puis un match d'anthologie, peut-être la plus belle rencontre de l'histoire de la Ligue des champions de football. Le PSG a vaincu hier le Bayern Munich 5-4 en demi-finale aller, et c'était au Parc des Princes. un pays à genoux où la guerre entre le Hezbollah pro-iranien et l'armée israélienne a conduit au déplacement d'un cinquième de la population et divisé un peu plus ses habitants. Malgré la trêve en cours depuis le 17 avril, le sud du Liban est toujours la cible de raids israéliens quotidiens. Hier, 8 personnes ont été tuées, dont 3 secouristes de la défense civile libanaise. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir trouvé un tunnel du Hezbollah long de 2 km dans le sud du Liban. De nouvelles frappes israéliennes alors que les besoins humanitaires sont immenses et le gouvernement libanais peine justement à apporter l'aide nécessaire aux déplacés en l'absence d'une aide internationale. Conséquence à Beyrouth, Paul Khalifi.
Les autorités ont tapé à toutes les portes pour essayer de rassembler la somme $1 milliard nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Les réponses obtenues auprès des institutions financières internationales et des pays amis ne sont pas encourageantes. Malgré les demandes insistantes des autorités libanaises, les montants débloqués à ce jour restent très inférieurs aux $720 millions obtenus lors de la guerre de 2024. Les besoins, eux, sont de loin supérieurs. Un premier prêt de $200 millions destiné aux populations les plus vulnérables a déjà été signé avec la Banque mondiale. Mais cela reste insuffisant, surtout que la guerre actuelle agit comme un facteur multiplicateur dans un Liban qui est déjà en crise structurelle depuis 2019. Pour tenter de parer au plus urgent, le gouvernement envisage de redéployer des prêts destinés à l'origine à des projets d'infrastructure. Face aux besoins de liquidité, le gouvernement a aussi décidé de reporter l'application des augmentations salariales dans la fonction publique, adoptée en février dernier pour un coût annuel de $800 millions. Une décision jugée inévitable, mais qui risque d'accroître les pressions sociales. Combinée aux tensions politiques et aux effets immédiats de la guerre, le mélange risque de devenir dangereux pour la stabilité interne. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI.
Lui s'exprimera devant le Congrès américain. Tout à l'heure, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, va devoir s'expliquer sur la conduite de la guerre en Iran. Première audition parlementaire depuis le début d'un conflit qui s'enlise malgré le cessez-le-feu prolongé par Donald Trump. Pas d'annonce de nouvelles discussions avec l'Iran et le détroit d'Ormuz, toujours en grande partie bloqué. La guerre avec l'Iran qui n'a pas été abordée par le roi d'Angleterre, Charles III, dans sa prise de parole devant le Congrès américain. Une première pour un monarque britannique depuis 1991. Charles III venu porter un discours d'apaisement alors que les relations entre le Premier ministre travailliste Keir Starmer et Donald Trump se sont nettement refroidies depuis le début du conflit. Charles III qui a surtout évoqué les liens entre les États-Unis et le Royaume-Uni et l'importance du soutien à l'Ukraine. Écoutez.
Au lendemain des attentats du 11 septembre, lorsque l'OTAN a invoqué l'article 5 pour la première fois et que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré uni face à la terreur, nous avons répondu ensemble à cet appel, comme nos peuples l'ont fait depuis plus d'un siècle, côte à côte, à travers les deux guerres mondiales, la guerre froide, l'Afghanistan et tous ces moments qui ont marqué notre sécurité commune. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la Chambre des représentants, cette même détermination sans faille est nécessaire pour défendre l'Ukraine et son peuple si courageux.
La défense de l'OTAN.
Afin d'obtenir une paix juste et durable.
La défense de l'OTAN et de l'Ukraine au cœur donc de la prise de parole de Charles III. C'était il y a quelques heures au Congrès américain. Le monarque britannique attendu aujourd'hui à New York pour assister à une cérémonie au mémorial du 11 septembre. Avant cela, il a été reçu hier soir à la Maison Blanche pour un banquet lors duquel Donald Trump a affirmé avoir vaincu militairement l'Iran. Et puis toujours aux États-Unis, l'ex-directeur du FBI James Comey, bête noire justement du président américain, limogé brutalement en 2017. Alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, et bien James Comey a de nouveau été inculpé, cette fois pour avoir menacé la vie et l'intégrité physique du président américain, selon l'accusation, et ce pour une photo publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025, interprétée par l'administration Trump comme une menace envers le président. direction à présent le Mali, après 3 jours de silence suite aux attaques coordonnées des djihadistes du JNIM et du Front de Libération de la Zawad. Le chef des militaires au pouvoir à Bamako, Assimi Goïta, a refait surface hier. Première prise de parole à la nation de près d'une dizaine de minutes au total. Le président de la transition qui a tenu à rassurer la population malienne et a appelé à l'unité alors que les djihadistes du JNIM ont annoncé un blocus de Bamako qui inquiète évidemment la population de la capitale. Population qui appelle les autorités militaires de Bamako à tout mettre en œuvre pour éviter des conséquences désastreuses. Écoutez ces réactions recueillies par les rédactions en foule des mandinquants des RFI.
Il faut prendre leur parole avec sérieux et il faut que les forces de l'ordre aillent vérifier. Beaucoup de Maliens ont la tête baissée aujourd'hui parce que si on nous avait dit qu'ils pouvaient pénétrer dans le camp le plus sécurisé du pays et tuer notre ministre, on ne l'aurait pas cru. S'ils disent aujourd'hui qu'ils ont encerclé Bamako, nous devons trouver une solution.
Si on observe bien, c'est par les déplacements qu'on mène les activités économiques. Donc si la ville est bloquée, les prix des denrées vont sérieusement grimper. Alors qu'actuellement, nous sommes déjà à bout de souffle sur le plan économique.
Ce qu'il s'est passé samedi dernier ne nous a pas plu du tout. Des terroristes qui décident des entrées et des sorties dans Bamako, personne ne souhaite cela. Sauf si nous sommes dans l'incapacité d'éviter cela. Nous prions que ce blocus ne soit pas une réalité, qu'ils ne puissent pas atteindre leur objectif et faire souffrir les Maliens et les Bamakois.
La réaction de Bamako au micro des rédactions en full day et mandinquant d'RFI. La sortie des énergies fossiles est nécessaire pour atteindre l'indépendance. La déclaration hier du commissaire européen au climat au sommet sur la sortie des énergies fossiles de Santa Marta en Colombie. L'Union européenne qui reconnaît donc la nécessité de sortir de ces énergies fossiles. Ce sommet de Santa Marta, le premier du genre qui s'achève aujourd'hui. Et on connaît le prochain pays hôte de la prochaine édition, l'an prochain, l'état des Tuvalu dans le Pacifique. Susana Muhammad, l'ex-ministre colombienne de l'Environnement, estime que ce type de conférence et leur répétition dans le temps auront bel et bien un impact à court terme comme à long terme au regard de la guerre au Moyen-Orient sur l'approvisionnement énergétique. Écoutez.
C'est absolument historique, surtout au regard du moment géopolitique que nous traversons. Ces États se retrouvent ici sous la bannière « La transition au-delà des énergies fossiles » et ce thème peut jouer un rôle de contre-pouvoir face au gouvernement américain actuel. Il peut avoir des répercussions géopolitiques réelles si nous restons fermes dans notre intention de poursuivre la transition énergétique. J'ai le sentiment qu'ici, on est en train de planter une graine et quand la crise énergétique mondiale déclenchée par les États-Unis cette année s'aggravera, quand les effets économiques commenceront à se faire sentir sur l'inflation, sur l'alimentation, sur l'accès à l'énergie et que tout cela se mêlera au super El Niño climatique annoncé pour le deuxième semestre, eh bien on se souviendra de ces pays et de l'espace politique qu'ils ont su construire. Je pense qu'on s'intéressera encore davantage aux réponses qu'ils ont proposées, notamment pour faire face à un avenir énergétique qui sera de plus en plus complexe.
Susana Muhammad au micro de Najed Benrabah. Et puis toujours concernant ces énergies fossiles, cette annonce hier des Émirats Arabes Unis annonce de leur retrait surprise de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, au nom de leur intérêt national, marquant un revers pour l'alliance déjà ébranlée par la guerre au Moyen-Orient. On va revenir sur cette décision des Émirats et sur les réactions dans le journal de 7h. En attendant 6h10, ici à Paris et à Varsovie, la Pologne, championne des dépenses militaires en Europe, le pays frontalier de l'Ukraine, concentre ses efforts sur le développement de sa marine grâce au programme Miesnik. Hier, le groupe d'armement polonais a inauguré la construction de la 3e frégate de combat, un navire de guerre, et 2 autres déjà en construction qui doivent figurer parmi les plus modernes au monde. Notre correspondant Adrien Sarla a assisté au lancement de sa construction dans le chantier naval de Gdynia. Reportage.
Elle s'appelle Ouragan et elle fait déjà beaucoup de bruit. Hier, les ouvriers ont découpé la première plaque d'acier qui doit composer cette frégate de combat, la 3e du programme Miechnik, espadon en français. Comme les 2 autres, ce navire de combat ultra-moderne pourra agir en sous-marin comme dans le ciel des espaces maritimes. Une fierté pour le président du chantier naval militaire, Martin Gringvelski.
Chacune des frégates sera équipée de systèmes de combat et d'observation technique. Elles viendront renforcer les capacités de la marine polonaise pour défendre nos intérêts sur la mer et renforcer notre position dans l'OTAN.
En construisant ces frégates, un navire de sauvetage et en achetant des sous-marins dernière génération à la Suède, la marine polonaise amorce un virage à 360 degrés. Jusqu'ici parent pauvre de l'armée en Pologne, elle souhaite aujourd'hui monter en puissance pour défendre ses 400 km de frontière avec la mer Baltique, comme le suggère le vice-ministre de l'économie, Konrad Gołota.
La Baltique devient aujourd'hui un terrain de rivalité et abrite certaines de nos infrastructures les plus critiques. Et elles seront plus en sécurité grâce au travail fourni dans le chantier naval militaire.
Au total, les trois frégates devraient coûter 3,5 milliards d'euros. La première, dont la construction a démarré en 2023, doit être mise à disposition de l'armée dès le mois d'août prochain. Adrien Sarlac, Digna, RFI.
Enfin, vous l'avez peut-être suivi en direct avec nous hier soir, une incroyable soirée de football au Parc des Princes. Certains diront une finale avant l'heure. Le PSG s'est imposé 5-4 à domicile, donc face au Bayern Munich pour cette première demi-finale. Allez, les deux équipes ont sans doute livré l'un des plus grands matchs de l'histoire de la compétition, Cédric de Oliveira.
On s'attendait à un grand match de Ligue des Champions. On a eu un duel dantesque et inoubliable. Sven s'est cassé la voix pendant plus de 90 minutes dans les travées du Parc des Princes.
Ouais, grave, c'était une soirée incroyable, match de fou. En vrai, un des meilleurs matchs de l'année.
Des buts dans tous les sens. Dembélé, Kvaratskhelia, Kélia Neves pour Paris, Kane, Olysée et Diaz pour le Bayern. Et une intensité folle à chaque duel, à chaque action. Sur son banc, Luis Enrique a tout vu de ce duel homérique et il en est sorti éreinté.
Ça a été un match avec des équipes d'un niveau incroyable et je pense qu'on a montré quel type de football nous sommes. Je suis tellement fatigué. Si je suis fatigué, je n'ai pas couru un kilomètre comme les joueurs doivent être.
On rassure l'entraîneur parisien, simple observateur, on est dans le même état après ce combat de boxe où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. À 26 ans, le milieu de terrain Vitinha n'avait lui non plus jamais connu ça.
Jusqu'à maintenant, c'est le meilleur match que j'ai participé. Et à la fin, c'est vraiment quand tu t'assis un peu et tu dis 5-4 quand même. Un grand, grand match de foot. Le plus important, c'est qu'on a un bout d'écart. Ça va être un grand match là-bas aussi.
Franchement, ça paraît improbable de revoir autant de virtuosité de part et d'autre. Mais avec le Bayern et Paris, visiblement, tout peut arriver. En tout cas, vivant le match retour mercredi prochain à Munich.
La demi-finale retour qui aura donc lieu mercredi prochain à l'Allianz Arena, l'antre du Bayern Munich, et ce sera à nouveau à suivre évidemment en intégralité sur RFI. Ce mercredi, l'autre demi-finale aller opposera les Espagnols de l'Atlético de Madrid aux Anglais d'Arsenal. Coup d'envoi 19h, temps universel. En attendant, 6h13 à l'écoute de la Radio du Monde. 20 minutes d'infos et de reportages à suivre. Nous serons en Allemagne. On parlera des mafias italiennes implantées dans le pays. Les autorités judiciaires peinent, vous allez l'entendre, à trouver une solution. Nous appellerons aussi notre correspondant en Inde, Abdullah Erali, pour parler d'élections cruciales pour le Premier ministre indien, Narendra Modi. Un marathon électoral même, il s'achève aujourd'hui dans l'état du Bengale, peuplé de 100 millions d'habitants. L'invité culture d'RFI, le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis. Son dernier film Dao sort aujourd'hui en France en salle. Et puis le Conseil Santé, comme tous les jours, ce sera avec Caroline Paris. Et ce sont des procès qui défraient la chronique en Allemagne et pour cause, ils concernent la mafia italienne et notamment sa branche calabraise, la 'Ndrangheta, qui a tenté d'infiltrer l'économie mais aussi le petit commerce en Allemagne. Tentative de meurtre, trafic de drogue, fraude fiscale aggravée, les faits sont graves et les autorités policières et judiciaires semblent désarmées face au phénomène. Reportage à Berlin d'Opal Van Kaiser.
Dans le quartier de Schönebeck, dans le sud de Berlin, la typique trattoria à Montagnola arbore fièrement les couleurs de l'Italie.
Ah,
Pino Bianco a fondé ce restaurant avec sa mère il y a 35 ans. Après avoir quitté l'Italie, la mafia
vous plaît malheureux.
Il est rattrapé par l'actualité.
L'important c'est d'être riche à gauche. On s'en fout du fric. L'important c'est de rien foutre. À droite, on n'aime pas trop les Arabes et les Noirs. Mais tant mieux comme ça, à gauche, nous on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas, ils seraient pas juste amoureux. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer. ça donne le cancer. Et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leur chimio et leur perruque. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous. Sinon c'est contraire au principe de l'égalité qui est à la base de nos valeurs républicaines. Puis là j'ai rajouté une fin à droite. À chaque fois qu'on viole une meuf, les gens ils trouvent ça franchement dégueulasse. À gauche, on viole tout ce qu'on veut, les gens ils vont penser que c'était un complot.
La terre s'ouvre, mes bras sortent et font des wads. Trop de merde dans ton corps qui s'écrie épondez-moi. Ton âme la pute qui s'écrie fécondez-moi. Dame nature qui fond en larmes, les humains qui font des lois. Retiens ma pipe, déconce les cartes, retiens ma bite, défoncez le toit. Vite, vite, retiens-moi, je tire, je regarde la vie entre mes doigts. Je voile des monts, des fois à slash, des creux à fragments. Gros, ce monde débarque, mais je craque pas sous la pression. Magma sous la mèche, on fracasse toute la légion avant que je ramène ma face. Tout allait bien, ma fac, je suis la raison. Sale fac, t'es la bestiole sur l'asphalte. Y'a que du royaume d'Agartac, je veux l'adhésion. J't'envoie mes meilleures ondes. Dans le fond, j'suis tellement bon, j'suis pas smoky. Player blond, j'rôtis entre les bombes, j'claudique. Jamais j'ai honte, pauvre type. J'profite avant les profits, j'fais mon possible pour mon possible. Mon poussin, j'en roule un comme Jean Moulin. Y'a pas que de l'eau dans mon moulin. J'lâche un molard pour les moulas, ma porte. Et bien des choses sauf la moula. Moulère mes poches, moule deux fois ce fut mou. Moule deux fois sans fumer. Enculé, j'suis plein d'amour, plein d'atouts. Sur mon cœur et sur mon cul, un blindage rouillé feinte la foule. Fin, j'ai fin de vie comme un défunt. Plein de vis comme un mec sain. J'suis craintif comme un essaim. J'inspecte comme un médecin. Merde, vous êtes des insectes, pas des terriens. J'sais que tu veux m'arrêter, viens. Mec, tu peux, pareil que c'est rien. J'fais tout ce que j'peux pour être serein. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Nique tout, t'es middle trou. De vite toute petite bouche. J'rappe comme les Beatles ou les Zwinkelschwur. Ni que des rimes de bourge qui plient le cou. NQNT pire que tout. Fils de pouf, l'empire te chouffe. La France est dépressive comme un arien tressé. Avec le temps, les spectres rétrécissent. Ça sert à quoi de stresser? Ma secte est réceptive, mon sperme est sélectif. Depuis que l'épée a braché, maîtrisé, je fais que briser. LDVA, ça devient prisé. Des dizaines veulent sympathiser. Mes seins pointent comme les pyramides de Gizeh. Je casse une guinze et roule un terre très très aiguisé. Qu'importe l'heure, jamais déguisé. Frère, est-ce que c'est pigé? Des grands pilons air, le champ de mon viseur. Ton embryon de carrière dans mon freezer. Snitch, c'est quoi le message R? NQNT n'est que présage, frère. La première tape part au pressage. Comme les guerres, toutes mes mères traversent les âges. J'brave ce game de brave, j'bève j'axe mon zen vers les astres. Fan, 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 fan,
fan. NQNT, 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 NQNT.
tes oreilles, tu écoutes et tu entends la musique.
Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.